poussière et granit. Présenté par Christian Delors.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus, 103.2 FM et radioalliance-plus.fr, et puis aussi DAB+. Voici Poussière et Granit, au micro Christian Delors et à la technique Louis Esparcel. Réformation. Même si la fête de la Réformation se déroule chaque 31 octobre en France, à la veille de la Toussaint, c'est dimanche dernier que l'Église protestante unie de Nîmes a commémoré le jour supposé de l'affichage des 95 thèses de Martin Luther à Wittenberg le 31 octobre 1517. Les historiens considèrent généralement cette date comme celle du début de la Réforme. Si notre époque affectionne les anniversaires et les célébrations en tout genre, les origines de la fête de la Réformation sont lointaines. Très tôt, dès le XVIe siècle, apparaît en effet l'idée d'une commémoration annuelle de la Réforme. En 1617, le premier centenaire de l'affichage des thèses de Luther est célébré le 31 octobre dans certaines régions allemandes. C'est ce jour qui finira par s'imposer comme anniversaire de la Réformation. Ce sera d'abord le cas dans l'Europe luthérienne, puis, au cours du XIXe siècle, dans les églises de la tradition réformée. En France, la fête de la Réformation est célébrée par les différentes églises protestantes, ainsi que par la Fédération protestante de France. Les textes bibliques les plus souvent lus sont Galates 5, 1 à 6, Romains 3, 20 à 28 et Matthieu 5, 2 à 12. En 2017, l'anniversaire des 500 ans de la Réforme avait donné lieu à de très nombreuses manifestations en France et dans le monde. Informations locales. Elles sont peu nombreuses ces jours-ci. La Maison du protestantisme 3 rue Claude Brousson vous accueille du mardi au vendredi de 9h30 à midi et l'après-midi du lundi au vendredi de 14h à 17h. Les repas du jeudi reprendront la semaine prochaine, le jeudi 7 novembre à 12h15 comme d'habitude. Prochaine réunion de l'amitié judéo-chrétienne de Nîmes, jeudi 7 novembre à 19h au temple du Mas des Abeilles, 2135 chemin du Bachas. Ce sera une conférence de Édouard Robrecht, maître de conférence en philosophie juive à l'université de Marseille-Aix, sur le thème « Le serpent et la tentation, un serpent qui parle ou une parole serpentine ». La première conférence donc sera sur le thème « Une faille dans la parole ». La participation aux frais est de 12 euros pour tout public, de 10 euros pour les adhérents. L'entrée est gratuite pour les étudiants et les religieux. Dimanche prochain, 3 novembre à 17h, ce sera le concert d'orgue organisé par les orgues des temples protestants de Nîmes. Ce concert aura lieu au Grand Temple de Nîmes et l'organiste invité sera le titulaire de la cathédrale de Mende, Georges Lartigot. Ce concert sera retransmis sur grand écran. Entrée libre. Association protestante d'assistance, APA. L'APA recrute des bénévoles pour l'accueil social et les entretiens sociaux, ainsi que pour l'épicerie sociale, les mardis ou vendredis. Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter directement l'APA, 19 rue Bigot, ou en écrivant à contact@apa30.fr. Depuis plusieurs années, l'APA organise un colloque au mois de décembre. Le sixième colloque de l'APA aura pour thème « L'engagement, qu'est-ce que ça change ?» Il se tiendra le vendredi 6 décembre au cinéma Le Sémaphore, de 9h à 17h. L'invité cette année sera Marion Muller-Collard. Réservation en ligne et programme à venir. Conférence des Églises européennes. Un petit rappel, la Conférence des Églises européennes a été fondée en 1959 pour promouvoir la réconciliation, le dialogue et l'amitié entre les Églises d'Europe après la Seconde Guerre mondiale et à l'époque de la guerre froide, quand les divisions et tensions politiques étaient croissantes. Dans l'ensemble de son engagement en Europe, la Conférence des Églises européennes cherche à aider les Églises à renouveler leur vie spirituelle, à renforcer leurs témoignages et services communs et à promouvoir l'unité de l'Église et la paix dans le monde. Au XXIe siècle, elle rassemble 116 membres parmi les églises orthodoxes, protestantes, anglicanes et vieilles catholiques de tous les pays d'Europe. La Conférence des Églises européennes a des bureaux à Bruxelles et à Strasbourg. La Conférence des Églises européennes va organiser une consultation sur la paix juste du 9 au 11 décembre prochain à Varsovie, en Pologne, dans le cadre de l'initiative « Chemin vers la paix » de la Conférence des Églises européennes et en coopération avec le Conseil œcuménique polonais. Cette consultation de 3 jours sera guidée par le verset biblique « Que le droit coule comme l'eau et la justice comme un torrent intarissable » Livre du prophète Amos, chapitre 5, verset 24. Les participants représentant les églises de toute l'Europe examineront leur rôle dans la promotion d'une paix juste et de la réconciliation. La consultation présentera les points de vue de dirigeants d'églises, d'universitaires et d'intellectuels ukrainiens qui s'intéresseront au processus émergent des églises européennes et aux réflexions sur la paix juste. La discussion explorera les liens entre l'initiative « Chemin vers la paix » et le pèlerinage œcuménique de justice, de réconciliation et d'unité du Conseil œcuménique des Églises. L'événement vise à initier un dialogue qui favorise une compréhension renouvelée de la paix juste entre les Églises européennes. Les femmes et la réforme. Au moment où on célèbre la fête de la Réformation, il est intéressant de savoir quelles sont ces femmes qui ont joué un rôle dans la réforme protestante. De nombreuses femmes ont joué un rôle décisif dans l'avancement de la réforme et sans elles, le mouvement n'aurait probablement pas eu la même notoriété. Dans un court documentaire, la théologienne protestante Valérie Duval-Poujol explore le rôle important mais souvent méconnu des femmes dans la réforme protestante. Les femmes ont joué un rôle déterminant dans la diffusion des idées de la réforme, agissant comme des « trompettes de l'Évangile », entre guillemets. Malgré la domination historique des hommes dans les récits religieux, les femmes ont contribué à façonner le protestantisme depuis la propagation des idées réformistes jusqu'à l'obtention de l'égalité des droits en matière de leadership religieux. Valérie Duval-Poujol met en lumière 4 avancées majeures pour les femmes après la réforme. La réévaluation du mariage, l'établissement des droits égaux en matière de divorce, la création d'écoles pour filles et l'acceptation éventuelle des femmes dans des rôles pastoraux. Elle évoque également les grandes figures féminines de l'histoire, notamment Marie d'Anthière et Florence Nightingale, qui ont contribué à l'éducation, au travail missionnaire et à la réforme de la société. L'entretien souligne l'influence durable de ces femmes pionnières sur le protestantisme d'aujourd'hui. Cette vidéo a été produite par Regard Protestant. Regard Protestant, c'est une plateforme web ou un portail de médias protestants francophones créé par la Fondation Bercier en 2013 pour faire connaître et soutenir les médias protestants. Un site portail qui relaye les articles des médias partenaires du projet. Quelles sont ces femmes qui ont joué un rôle dans la réforme protestante? Écoutons un bref extrait de ce podcast.
Les femmes protestantes, 500 ans de protestantisme, c'est aussi l'histoire des femmes protestantes. Quelle a été leur place, quel a été leur rôle dans l'Église, mais aussi plus largement dans les sociétés. Alors c'est difficile de partir à la recherche de l'histoire de ces femmes, parce que souvent l'histoire a été écrite par des hommes, au sujet des hommes. Et pourtant nous avons cette mosaïque de portraits de femmes protestantes, anonymes, inconnues, mais qui ont joué un grand rôle dans la propagation de ces idées de la réforme. Et je vous propose donc de partir à la découverte de ces femmes protestantes. Quel a été le rôle de ces femmes pendant la réforme? Eh bien, pour avoir une idée, on peut notamment écouter ce que les critiques de la réforme protestante ont dit. Et ainsi, en 1705, on a quelqu'un qui les accuse en disant « Les femmes sont les trompettes de votre évangile ». Ce qui veut dire que c'était les femmes aussi qui diffusaient, qui prêchaient, qui propageaient ces idées de la réforme. Et c'est notamment grâce à elles que, depuis l'Allemagne, ça a gagné l'Europe et ensuite le monde entier, et qu'on a aujourd'hui des protestantes dans le monde entier. Il est incontestable que la réforme a aidé à promouvoir la condition féminine. Le bouleversement ecclésial introduit par la réforme a eu aussi en fait des conséquences sociétales. Et donc c'est la réforme qui a notamment permis une plus grande place de la femme, notamment dans l'Église, mais aussi dans les sociétés. Alors c'est vrai que les réformateurs eux-mêmes, au XVIe siècle, ils n'étaient pas forcément des féministes, et il y a même quelques remarques très sexistes de leur part, ils étaient les fruits de leur époque. Mais on pourrait dire que l'arbre est dans la graine. Dans l'enseignement qu'ils ont donné, notamment par un retour à l'écriture, ils ont permis cette place plus grande donnée aux femmes. Aujourd'hui, dans le protestantisme, la femme a toute sa place. La femme peut être pasteur, prêcher, enseigner, elle peut être à la tête d'une faculté de théologie, et donc nous avons vraiment une femme à l'égal de l'homme dans la plupart des mouvements du protestantisme. Et dans les sociétés qui sont à majorité protestante, on voit aussi toute l'influence et toute la place qu'elles ont pu prendre à cause de cet héritage de la réforme. Quelles ont été les avancées pour les femmes, pour la condition féminine suite à la réforme? On peut en identifier quatre principales. D'abord, une réhabilitation du mariage comme état normal. Avant la réforme, il y avait une insistance, une valorisation du célibat comme considéré comme un état spirituellement supérieur. Et puis avec la réforme, on a réintroduit l'idée que le mariage était biblique, bon, voulu de Dieu, et aussi l'accentuation que le mariage n'était pas seulement pour la procréation, mais aussi pour l'intimité conjugale, la rencontre entre les conjoints, et donc ça a vraiment changé la face du mariage. Concrètement, le fait que les clercs étant passés au protestantisme se soient mariés, comme Luther par exemple, a aussi beaucoup contribué à ce changement d'image. Le deuxième apport, c'est la reconnaissance des mêmes droits pour les hommes comme pour les femmes en ce qui concerne le divorce. Et ça a vraiment aussi changé la condition féminine. Le troisième apport, c'est la création d'écoles pour filles. C'est un des apports majeurs de la réforme, l'éducation. L'éducation des filles, leur apprendre à lire. Et à travers cette éducation, cette création des écoles, ça a commencé à la réforme et ça s'est beaucoup accentué dans les siècles qui ont suivi, eh bien c'est un véritable esprit critique qu'on a donné à ces jeunes filles, qui s'est souvent transformé ensuite en esprit d'entreprendre.
Novembre approche. Novembre approche, le mois où il est habituel de penser à la mort et à nos morts. À cette occasion, les éditions Olivetan nous invitent à lire un livre écrit sous la direction du professeur Raphaël Picon. Ce livre est intitulé « La mort, le deuil, la promesse ». Acte pastoral et ecclésial. Le service funèbre prend son sens en fonction des convictions théologiques, mais aussi des aspirations, des attentes de nos contemporains à l'endroit de la mort. Écrivains, philosophes, pasteurs, théologiens, historiens, psychothérapeutes partagent dans ce livre leurs compétences propres. Une approche riche et stimulante pour celles et ceux qui souhaitent approfondir une réflexion sur la mort et le deuil, et pour toute personne exposée aux exigences de l'accompagnement spirituel et liturgique d'hommes et de femmes confrontés à la mort. Les textes présentés ici s'agencent sous la forme d'un parcours. Ils commencent par l'annonce de la mort et s'achèvent sur la promesse d'un désir, l'annonce pour dire l'indicible de la mort, et le désir qui, en dernière instance, nous surprend, insiste et nous reprend dans la vie. Romanciers, pasteurs, philosophes, historiens, psychothérapeutes, théologiens reviennent sur cet itinéraire et en posent les différentes balises, autant de repères pour penser la mort et pour saisir le sens et les enjeux des services funèbres dans le protestantisme. Conseil œcuménique des Églises. Le Conseil œcuménique des Églises défend le souci de la création et la justice au début des trois COP. Le Conseil œcuménique des Églises entame son cheminement au gré des trois COP qui commencent par la COP 16 sur la biodiversité en Colombie, en promouvant une approche holistique, c'est-à-dire complète, de la gérance environnementale. Ancrée dans la foi et orientée par le souci de la création, le Conseil œcuménique des Églises appelle à des politiques intégrées pour relever les défis liés que sont la perte de la biodiversité, les changements climatiques et la dégradation des sols, tout en amplifiant les voix des populations autochtones et des communautés vulnérables. La COP 16 sur la biodiversité, qui se déroule du 21 octobre au 1er novembre, est la première de ces trois grandes conférences internationales sur l'environnement. Le Conseil œcuménique des Églises prendra également part à la prochaine COP 29 sur le climat à Bakou, en Azerbaïdjan, du 11 au 22 novembre, et à la COP 16 sur la désertification à Riyad, en Arabie Saoudite, du 2 au 3 décembre. Nous prônons des solutions qui honorent les liens qui existent au sein de la création et nous reconnaissons que la biodiversité est la pierre angulaire de la résilience écologique et humaine, a expliqué le pasteur Jerry Pillay, secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises. La justice environnementale n'est pas qu'une question de politique, c'est également une responsabilité spirituelle et morale. Nous sommes appelés à traiter avec urgence ces cris, avec une action fondée dans la foi, pour garantir un avenir où toute la création peut prospérer, a-t-il ajouté. Et Athena Peralta, directrice de la Commission sur la justice climatique et le développement durable du Conseil œcuménique, a souligné le lien entre la préservation de la biodiversité et l'action climatique. Notre foi nous pousse à prôner la justice pour la biodiversité. C'est non seulement indispensable pour la résilience climatique, mais c'est également un devoir sacré en vue de préserver la création de Dieu. Les connaissances autochtones et la gérance par la communauté sont des ressources inestimables au cours de ce cheminement. Nous allons maintenant terminer cette émission. Je vous rappelle que Poussière et Granit, que vous êtes en train d'écouter, est diffusé le mardi à 8h20, le jeudi à 11h15 et le dimanche à 10h10, juste avant la diffusion du service protestant. Au revoir et bonne journée.